Chapitre 17. Le bois aux écureuils. D'après le son, l'avion avait touché le sol près d'un cours d'eau. Turner, encore empêtré dans son fil léger, l'entendait en se tournant dans sa fièvre ou son sommeil, l'eau sur la pierre, un des chants les plus anciens. L'appareil était intelligent, le niveau d'intelligence d'un chien et programmé pour se dissimuler. Turner le sentait se balancer sur son train d'atterrissage quelque part dans la nuit fébrile et avançait doucement, tandis que les branches frottaient et rayaient la verrière sombre. L'avion s'enfonça dans des ombres vert foncé puis s'abaissa, sa cellule gémissant et grinçant à mesure qu'il s'aplatissait et posait son ventre contre l'humus et le granit, telle une raie dans le sable. Le revêtement de polycarbonate mimétique sur ses ailes et son fuselage se moucheta et s'assombrit, prenant les couleurs et les motifs de la pierre tachetée par le clair de lune et du sol de la forêt. Puis, il se tut, et seul demeura le bruit de l'eau dans le lit du ruisseau. Turner s'éveilla comme une machine. Ouverture des yeux, connexion de la vision, épuisé. Souvenir de l'éclat rouge de la mort de Lynch derrière la mire du Smith & Wesson. La voûte de la verrière au-dessus était constellée de copies approximatives de feuilles et de branches. L'aube pâle et le bruit du cours d'eau. Il portait encore la chemise de travail bleue d'Oki. Elle sentait désormais la sueur rance et il en avait arraché les manches la veille. Le pistolet, posé entre ses jambes, pointait vers le levier de commande noir de l'avion. Le fil léger était emmêlé autour de sa taille et de ses épaules. Il se retourna et vit la fille. Visage ovale et filet de sang séché et marron sous une narine. Elle était toujours inconsciente et transpirait, les lèvres entrouvertes telles une poupée.
Où sommes-nous ?
Nous sommes 15 mètres au sud-sud-est des coordonnées d'atterrissage que vous m'avez fournies,
dit l'avion.
Comme vous n'étiez toujours pas réveillé, j'ai décidé de me cacher.
Il leva une main jusqu'à son cou et retira le câble de l'interface de sa prise, rompant ainsi sa connexion avec l'appareil. Il détailla le cockpit d'un air morne jusqu'à ce qu'il trouve les commandes manuelles de la verrière. Elle se souleva sur un servomoteur en sifflant, et le motif de feuille en polycarbonate se modifia. Il passa une jambe par-dessus le rebord, regarda sa main posée à plat contre le fuselage près du cockpit. Le polycarbonate reproduisait les teintes grises d'un rocher proche. Sous les yeux de Turner, le matériau se mit à peindre une tache de la taille de sa main et de la couleur de sa paume. Le mercenaire sortit l'autre jambe, abandonna le pistolet sur le siège et se laissa glisser au sol vers la terre et les hautes herbes. Puis, il dormit de nouveau le front dans la verdure et rêva d'un cours d'eau. Lorsqu'il se réveilla, il avançait à quatre pattes à travers des branches basses et couvertes de rosée. Il atteignit enfin une clairière et s'effondra, roula sur lui-même et écarta les bras dans un mouvement qui s'apparentait à une reddition. Loin au-dessus de lui, un petit animal gris s'élança d'une branche, en attrapa une autre, s'y balança quelques instants, puis disparut en grimpant.
« Reste allongé !» entendit-il une voix lui dire à des années de là. « Reste étendu, tranquille, et ils finiront par t'oublier. Ils t'oublieront dans le gris, l'aube et la rosée. Ils sont partis manger, manger et jouer. » Et leurs cerveaux ne peuvent retenir deux choses à la fois pendant très longtemps.
Il demeura allongé sur le dos, près de son frère, la crosse en nylon de la Winchester sur la poitrine, dans l'odeur de cuivre neuf et de lubrifiant pour armes, celle du feu de camp encore dans ses cheveux.
Et son frère avait toujours raison à propos des écureuils. Ils venaient. Ils oubliaient la marque limpide de mort dessinée sous eux en tenue de camouflage et acier bleuté. Ils approchaient, fonçant sur les branches, s'arrêtant pour humer le matin, et le calibre 22 de Turner claquait juste avant qu'un petit cadavre gris ne tombe. Les autres se dispersaient et disparaissaient. Puis, Turner passait l'arme à son frère, et il recommençait à attendre que les écureuils les oublient.
« Tu es comme moi »,
dit Turner aux écureuils en s'éveillant brusquement de son rêve. L'un d'eux s'assit soudain sur une branche épaisse et l'observa.
« Je reviens toujours. »
L'écureuil s'enfuit. Je revenais lorsque j'ai rencontré le Hollandais. Je revenais lorsque je suis parti au Mexique. Je revenais lorsque j'ai tué Lynch. Il resta allongé là, longtemps, à regarder les animaux, tandis que la forêt s'éveillait et que la matinée se réchauffait autour de lui.
Un corbeau passa, vira puis freina en déployant ses ailes comme des doigts noirs mécaniques, vérifiant s'il n'était pas mort. Turner adressa un sourire à l'oiseau lorsqu'il s'éloigna en volant. Pas encore. Il retourna à quatre pattes jusqu'à l'avion, sous les branches, et la trouva assise dans le cockpit. Elle portait un t-shirt blanc et ample, le logo Maas Neotech inscrit en diagonale, le tissu parsemé de losanges de sang rouge et frais. Elle saignait de nouveau du nez. Yeux bleu vif, hébété, désorienté, dans des orbites jaunies et noircies par les contusions, comme un maquillage exotique. « Jeune, remarqua-t-il, très jeune. Tu es la fille de Mitchell, » dit-il en puisant son nom dans le dossier du biologiciel. « Angela. » « Angie, » précisa-t-elle machinalement. « Vous êtes qui ?»« Je saigne. » Elle tendit un mouchoir ensanglanté. « Turner, j'attendais ton père. » Il se rappela alors, l'arme, la main de la fille restait invisible sous le rebord du cockpit. « Tu sais où il est ?»« Dans la mesa. » Il croyait pouvoir discuter avec eux, leur expliquer, parce qu'ils ont besoin de lui. « Avec qui ?» Il fit un pas en avant. « Maas, le conseil d'administration. Ils ne peuvent pas se permettre de lui faire de mal, pas vrai ?»« Pourquoi ferait-il ça ?» Un pas de plus. Elle épongea son nez avec le mouchoir rouge. « Parce qu'il m'a exfiltré. Parce qu'il savait qu'ils allaient me faire du mal, me tuer, peut-être, à cause des rêves. »« Les rêves ?»« Vous croyez qu'ils vont lui faire du mal ?»« Non. Non. » »« Il ne ferait jamais ça. » »« Je vais monter te rejoindre, d'accord ?» Elle acquiesça. Il dut passer les mains sur le flanc du fuselage pour trouver la poignée enfoncée dedans. Le revêtement mimétique afficha des feuilles, du lichen, des brindilles. Puis, il grimpa pour se retrouver près d'elle et vit le pistolet à côté d'une de ses tennis. Mais il ne devait pas venir. C'est lui que j'attendais, ton père. Non, ça n'a jamais été prévu. Nous n'avions qu'un seul avion. Il ne vous l'a pas dit ? Elle se mit à trembler. Il ne vous a rien dit ? Suffisamment, répondit-il en posant une main sur son épaule. Il nous en a dit assez, ça va aller. Il passa les jambes par-dessus le rebord, se pencha, éloigna le Smith & Wesson du pied de la fille et trouva le câble d'interface. La main toujours posée sur elle, il le leva et le brancha derrière sa propre oreille. « Donne-moi le processus pour effacer tout ce que tu as gardé en mémoire au cours des dernières 48 heures, » ordonna-t-il. « Je veux me débarrasser de ce plan de vol pour Mexico, de ton trajet depuis la côte, de tout. »
« Il n'y avait pas de plan de vol enregistré pour Mexico, » répondit la voix, l'entrée neuronale directe en mode audio. Turner considéra la fille en se frottant le menton. « Où allions-nous ?»«
À Bogota. »
Et le jet lui donna les coordonnées de l'atterrissage prévu. Elle l'observa en plissant les yeux, les paupières aussi noires que la peau autour. « À qui vous parlez ?»«
L'avion. Mitchell vous a dit où il pensait que nous allions. »«
Au Japon.
Tu connais quelqu'un à Bogota ?» Où est ta mère ?
Non. À Berlin, je crois. Je la connais pas vraiment.
Il effaça la mémoire de l'avion et la programmation de Conroy, ce qu'il en restait, en tout cas. L'approche depuis la Californie, les infos d'identification du site, un plan de vol qui les aurait emmenés jusqu'à une piste d'atterrissage à 300 km du centre urbain de Bogota. Quelqu'un finirait bien par trouver le jet. Il pensa au système de reconnaissance orbitale de Maas et se demanda si les programmes de dissimulation et de fuite qu'il avait enclenchés sur l'avion avaient eu la moindre utilité. Il pourrait donner l'appareil à Rudy pour qu'il le revende en pièces détachées, mais celui-ci refuserait sans doute d'être mêlé à ça. De toute manière, se pointer à la ferme avec la fille de Mitchell mettait Rudy dans la merde jusqu'au cou. Mais il n'avait nulle part ailleurs où aller pour ce dont il avait désormais besoin. Ils durent marcher 4 heures, sur des sentiers dont ils ne se souvenaient pas bien et sur une portion de route à 2 voies envahie par les herbes. Ils ne reconnaissaient plus les arbres, puis ils se rappela qu'ils avaient dû beaucoup pousser depuis toutes ces années où ils n'étaient pas venus. À intervalles réguliers, ils passaient devant les restes d'un poteau en bois qui soutenait autrefois des câbles téléphoniques abattus pour servir de combustible et désormais recouverts de ronces et de chèvrefeuilles. Des abeilles picoraient dans les herbes fleuries au bord de la route. « Y a à manger là où on va ?» demanda la fille, les semelles de ses tennis blanches traînant contre le bitume abîmé.
« Bien sûr, » dit Turner, « plein de nourriture. »
« J'ai surtout envie de boire de l'eau. »
Elle repoussa une mècherette de cheveux bruns de sa joue bronzée. Il avait remarqué qu'elle commençait à boiter et grimaçait chaque fois qu'elle posait le pied droit. « Qu'est-ce que tu as à la jambe ?»«
C'est ma cheville. Je crois que c'est quand j'ai planté l'ULM. »
Elle fronça les sourcils et continua à marcher. « On va se reposer. »«
Non, je veux attendre qu'on arrive quelque part, n'importe où. »«
Repose-toi. » la pria-t-il en lui prenant la main et en la conduisant au bord de la route. Elle grimaça, mais s'assit près de lui, sa jambe droite tendue devant elle. «
C'est un gros flingue, » dit-elle.
Il faisait chaud désormais, trop chaud pour le parka. Il avait enfilé le harnais d'épaule contre sa peau nue, la chemise sans manches par-dessus, ouverte et qui battait au vent.
« Pourquoi le dessous du canon est comme ça, comme une tête de cobra ?»«
C'est un viseur pour les combats de nuit. » Il se pencha en avant pour examiner sa cheville. Elle gonflait rapidement désormais.
« Je ne sais pas combien de temps encore tu vas pouvoir marcher, » dit-il.
« Vous vous battez beaucoup la nuit ? Avec des armes ?»«
Non. » »«
Je crois que je n'ai pas compris ce que vous faites. » Il leva les yeux vers elle.
« Je ne le comprends pas toujours moi-même, ces derniers temps. »
« J'attendais ton père. Il voulait changer d'entreprise, travailler pour quelqu'un d'autre. Ceux pour qui il voulait bosser m'ont embauché, moi et d'autres, pour faire en sorte qu'il échappe à son ancien contrat.
« Mais il était impossible d'y échapper, » dit-elle.
« Pas de façon légale, en tout cas. »
« Exact. »
Il défit le nœud, retira les lacets des tennis. « Pas de façon légale. »
« Oh, c'est donc ça, votre boulot ?»«
Ouais. » Il avait retiré la chaussure. Elle ne portait pas de chaussettes et la cheville avait beaucoup enflé.
Elle est foulée.
Et les autres, alors? Vous n'étiez pas tout seul là-bas dans cette ruine. Quelqu'un a tiré, il y a eu des fusées éclairantes.
Difficile de savoir qui tirait, expliqua-t-il. Mais les fusées ne venaient pas de nous.
Peut-être de l'équipe de sécurité de Maas qui te suivait. Tu croyais t'en être tiré comme ça?
J'ai fait ce que Chris m'a dit de faire.
Chris? C'est mon père.
Je sais. Je crois que je vais devoir te porter le reste du trajet.
Mais vos amis?
Quels amis?
Là-bas, en Arizona.
Ah, bah...
Et il essuya de la sueur de son front d'un revers de main.
Je ne sais pas.
Il avait vu le ciel devenir tout blanc sous l'éclat d'énergie plus brillant que le soleil. Mais pas d'impulsion électromagnétique, avait dit l'avion. Le premier des chiens augmentés de Rudy les repéra 15 minutes après qu'ils furent repartis. Angie s'accrochait au dos de Turner, les bras autour de ses épaules, ses jambes maigres sous les aisselles de l'homme qui avait entrelacé ses doigts devant son sternum pour former un double point. Elle sentait comme une gamine des banlieues chics avec un léger parfum de savon ou de shampoing. Il se demanda alors quelle odeur il devait dégager, lui. Rudy avait une douche.
« Oh merde, c'est quoi ça ?»
Elle se raidit dans son dos et le désigna. Un mince chien gris les observait depuis un haut talus d'argile au niveau d'un virage de la route, sa tête étroite recouverte d'une cagoule noire parsemée de détecteurs et qui l'aveuglait. Il haletait la langue pendante et tournait lentement la gueule d'un côté à l'autre.
« C'est rien, » dit Turner. « Un chien de garde. Il appartient à mon ami. »